VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. Le Niger est au premier plan de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. En témoigne sa campagne contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram et sa contribution aux efforts pour stopper l'afflux des armes au Mali voisin. D'où une forte coopération militaire entre Niamey et Washington. En quoi consiste l'assistance des États-Unis? La réponse du ministre nigérien de la Défense, Mahamadou Karidjo, au micro de notre envoyé spécial à Niamey, Idriss Fall.
Beaucoup de renseignements que nous partageons avec les États-Unis d'Amérique. Beaucoup d'interventions au niveau de la formation de nos hommes. Nous avons des forces expéditionnaires, des forces spéciales qui ont été formées par les forces armées américaines. Nous avons beaucoup de matériel qui ont été donnés par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Je dirais que la coopération entre les forces armées américaines et les forces armées nigériennes est très fructueuse et c'est des partenaires stratégiques qui, sur le terrain, nous aident par le renseignement et la formation. Ils n'interviennent pas au combat, au sol avec nous, mais en tout cas, ils nous donnent assez de renseignements pour nous permettre d'anticiper et d'accomplir nos missions avec le minimum de risques.
Les drones américains sont toujours présents, déployés ici, et il y en a combien?
Je souhaiterais ne pas vous dire combien il y en a, mais ils sont là quand même.
Mahamadou Karidjo, ministre nigérien de la Défense. Crise au Mali, le gouvernement malien et la médiation internationale ont écarté hier toute discussion du contenu de l'accord de paix d'Alger, appelant de nouveau le mouvement rebelle du nord du Mali à le paraffer en l'état. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
La CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, a plusieurs revendications et notamment la reconnaissance officielle de l'Azawad comme une entité géographique, politique et juridique, en référence à l'appellation du nord du Mali par les rebelles, mais aussi la création d'une assemblée interrégionale couvrant cette zone et un quota de 80% de ressortissants de l'Azawad dans les forces de sécurité. Dans un communiqué publié hier, la médiation internationale précise que la phase des négociations est achevée, mais disant avoir pris bonne note des exigences présentées lors de la rencontre de Kidal, elle souligne que cet accord n'a pas la prétention de résoudre à la fois et dans l'immédiat tous les problèmes posés. De son côté, le gouvernement malien affirme de manière solennelle que le paraphe du document, en attendant sa signature, exclut toute idée d'ouvrir de nouvelles négociations sur son contenu.
En Guinée, l'opposition suspend sa participation au Parlement et à la commission électorale pour marquer son désaccord avec le calendrier électoral actuel. Des précisions avec Nicolas Pinault.
Cette décision est symbolique puisque l'Assemblée guinéenne ne siégera pas avant le mois prochain. Sélouda Alain Diallo, Sidya Touré et Lansana Kouyaté, les trois grands leaders de l'opposition, doivent se retrouver ce week-end à Paris pour faire le point. Ils se sont déjà mis d'accord pour que les 49 députés de l'opposition se retirent de l'Assemblée nationale jusqu'à nouvel ordre. L'opposition décide aussi de ne plus reconnaître l'autorité de la CENI. Par ce geste, les opposants guinéens espèrent se faire entendre pour que les élections locales aient lieu avant le scrutin présidentiel. Dans le calendrier actuel, la Commission nationale électorale indépendante prévoit d'organiser le scrutin présidentiel le 11 octobre et les élections communales en 2016. Depuis l'élection d'Alpha Condé à la tête de la Guinée, les relations entre opposition et pouvoir guinéen sont exécrables et beaucoup redoutent de nouvelles violences lors de la présidentielle.
Au Tchad, l'UNET, l'Union nationale des étudiants tchadiens, maintient son mot d'ordre de grève illimitée des cours pour protester contre les violences liées à l'imposition du casque aux motocyclistes qui ont coûté la vie à un étudiant. En dépit des concertations avec les autorités, y compris le président Idriss Déby, l'UNET estime que ses revendications n'ont pas encore été satisfaites. On écoute Nadjo Kaina, leader de l'UNET, au micro de Timothée Donangmaï.
Le bureau national de l'UNED avait posé comme première condition le départ sans condition du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. On a mis sur pied une enquête spéciale où l'UNED sera parti. On va dire devant la justice les coupables et la suivi des blessés. Et je crois que quelques points ont été abordés par le chef de l'État. Et comme nous l'avons dit, nous allons faire un travail avec les étudiants à la base. Nous allons voir quelles sont les avancées. Et c'est ainsi que nous allons voir dans quelle mesure nous allons reprendre avec les cours.
Nadjo Kaina, président de l'Union nationale des étudiants tchadiens.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Tunisie, une trentaine d'associations, dont le plus grand syndicat du pays, l'UGTT, appelle à un rassemblement silencieux cet après-midi près du musée du Bardo à Tunis où une attaque par des hommes armés non identifiés a fait 21 morts hier, 17 touristes, 2 membres des forces de sécurité et 2 assaillants. L'objectif de la manifestation, souligner l'unité nationale dans la lutte contre le terrorisme. L'attaque intervient dans un contexte de politique encore très tendue et une situation économique qui ne fait que s'aggraver depuis le printemps arabe. Pour une analyse, Saloua Djafari a joint à Paris le spécialiste du monde arabe, Mustapha Tossa.
C'est le genre d'opération auquel se livrent des organisations terroristes comme Al-Qaïda ou l'État islamique. Et on sait que depuis un certain temps, les autorités tunisiennes avaient procédé à des démantèlements fréquents de cellules terroristes qui préparaient des attentats en Tunisie. Ils avaient aussi découvert des caches d'armes. Donc il y avait une pression sécuritaire sur la Tunisie qui était extrêmement importante et palpable. Et cette pression sécuritaire vient toujours du chaos libyen. On sait qu'il y a des organisations terroristes très actives en Libye et qui ont promis de commettre des attentats en Tunisie. Et donc ils ont réussi à tuer des gens et surtout à s'attaquer à des symboles dans un contexte politique extrêmement important pour la Tunisie.
Que pouvez-vous nous dire sur le contexte politique actuel ?
D'abord, la Tunisie est un des rares pays du printemps arabe qui a réussi relativement une douce et démocratique transition qui a été saluée par beaucoup de pays dont les États-Unis et l'Union européenne. Donc il y a une jeune démocratie qui était en train de naître et de grandir. Donc il faut dire qu'un certain nombre d'organisations terroristes n'ont aucun intérêt à ce que ce genre d'expérience puisse voir le jour sur le territoire arabe. Le deuxième message, c'est de voir aussi à quel point la Tunisie voisine est impactée par la situation en Libye. Tant qu'on n'a pas réussi à trouver une solution sécuritaire à ce qui se passe en Libye, on aura forcément des impacts de ce chaos sur les pays voisins. Et je considère que cette opération terroriste, parce qu'elle vise un lieu touristique à côté d'un lieu politique symbolique qui est le Parlement, fait partie de ces démarches et de ces entreprises de terreur qu'exportent des organisations comme l'État islamique ou Al-Qaïda. Troisième élément qui est très important, il ne faut pas oublier que cette opération terroriste intervient à la veille d'un projet de réconciliation nationale que le nouveau président de la République, Bachir Kaïd Sebsi, allait proposer aux Tunisiens. On peut envisager que cet attentat-là a pour but aussi d'empêcher la réconciliation et la stabilisation et la pacification des esprits en Tunisie.
C'était le journaliste et politologue Mustapha Tossa. Les retombées des élections en Israël, la réélection du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'aura aucun impact sur les négociations nucléaires avec l'Iran. C'est ce qu'assure le département d'État américain. De son côté, la Maison-Blanche a réaffirmé son soutien à la solution des deux États dans les négociations israélo-palestiniennes. Monsieur Netanyahou, rappelons-le, s'était juré à la veille du scrutin de ne jamais accepter la création d'un État palestinien à côté d'Israël. Maintenant, la minute économique avec Jean-Roger Bion.
La Banque centrale américaine a fait hier un pas supplémentaire vers une hausse de ses taux d'intérêt. La Fed a changé de posture en abandonnant son engagement à se montrer patiente, même si elle a précisé qu'un tel relèvement n'aurait pas lieu en avril. À l'issue de 2 jours de réunion à Washington, le comité monétaire de la Réserve fédérale a une nouvelle fois confirmé le maintien de ses taux directeurs proches de zéro, leur niveau depuis fin 2008, afin de continuer à soutenir la reprise aux États-Unis. Cameroun, plus de 36 milliards de francs CFA pour l'approvisionnement en eau potable à Yaoundé. Ce capital a pu être réuni grâce à une convention de coopération entre la Société générale de France, la Banque Import-Export des États-Unis et le gouvernement camerounais. Le projet visé devrait permettre en phase d'urgence de porter l'offre à 205 000 mètres cubes pour la capitale Yaoundé en proie à l'assèchement régulier des robinets. Et le groupe informatique américain Microsoft a annoncé que son nouveau système d'exploitation Windows 10 serait lancé cet été dans 190 pays et disponible en 111 langues. Microsoft avait précédemment indiqué en début de semaine que le futur système d'exploitation offrirait la possibilité de se connecter sans mot de passe en utilisant des technologies biométriques comme la reconnaissance faciale.
Et pour terminer, nouvelle de dernière minute, en RDC, des violents combats opposent l'armée congolaise à l'une des nombreuses rébellions dans le nord Kivu, dans l'est du pays. Il s'agit de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLS. Les affrontements ont commencé le week-end dernier dans le territoire de Masisi, à l'ouest de Goma, chef-lieu de la province du nord Kivu. Merci pour votre attention.
Soyez au cœur de la...